Radio Kapi.
Le journal Gisèle Cage.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de journal. Voici les informations clés de ce jour. Nord Kivu appelle à la mobilisation face aux rebelles ADF. La société civile de Mamouvé exhorte la population à soutenir les opérations conjointes FARDC-UPDF et à dénoncer les collaborateurs de rebelles dans les territoires de Beni et Ituri. Santé, Kinkole se dote d'un laboratoire biomédical de dernière génération. Le travaux de ce nouvel espace médical atteignent 90%, porteur d'espoir pour les 700 000 habitants de la zone de santé de l'Ancelé. Maniema, une usine d'oxygène médical pour renforcer le système de santé. Dans une interview exclusive accordée à Radio Okapi, le docteur Marie-Albert Chinzemba Chitompa, chef des divisions du programme national de lutte contre les infections respiratoires aiguës, revient sur cette dotation du gouvernement congolais qui marque un tournant dans la prise en charge des patients en détresse respiratoire dans la province. Ce journal s'ouvre dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans les territoires de Beni, où la société civile de Mamouvé lance un appel pressant à la mobilisation. Située à une soixantaine de kilomètres de la ville de Beni, cette localité voisine de zone d'opération militaire invite ses habitants ainsi que ceux des environs à soutenir activement les forces armées congolaises FARDC et ougandaises UPDF engagées dans la lutte contre les rebelles ADF depuis trois jours. En effet, ces deux armées mènent des offensives ciblées contre les bastions de rebelles ADF dans les territoires d'Irumu et des Mambasa en Ituri. Kinos Katuo, président de la société civile de Mamouvé, lance un appel fort. La population doit rester vigilante et dénoncer toute personne soupçonnée de collaborer avec les ADF. Un message relayé dans cet extrait signé Martial Papimukeba.
Après avoir attendu beaucoup de bombes lancées par la force conjointe FARDC-UPDF dans la nuit de ce samedi et toute la journée de ce dimanche, sur les bastions des ADF qui sont basés à Botoka, Guadolite, Mangidangida, Manonono, Nambes, Menzimenzi, dans le territoire de Mambasa et dans le territoire de Lirumu, la société civile appelle toute la population qui cultive au bord de la rivière Ituri et Samboko et dans les entités citées ci-ho à la prudence et à la vigilance. Surtout à libérer ces entités pour ne pas être confondues à l'ennemi ADF ou être tué par des balles perdues. Nous mettons en garde toute la population qui continue à collaborer, à ravitailler, à donner beaucoup d'informations à cet ennemi. Ce n'est plus l'état d'être complice à cet ennemi qui a fait souffrir la population pendant tant d'années. Nous devons dénoncer tout haut ces complices.
Dans la même veine, en Ituri, les opérations militaires se poursuivent ce lundi dans la profondeur de l'Oloa, territoire de Mambasa. Les forces conjointes FARDC et UPDF intensifient leurs offensives contre les bastions des rebelles ADF. Objectif, mettre un terme aux menaces persistantes qui pèsent sur les civils de cette zone, selon des sources sécuritaires. Pendant ces temps, des leaders communautaires montent au créneau. Ils appellent des autorités militaires à renforcer la sécurité le long de la route nationale numéro 4, axe stratégique pour les habitants et les usagers. Un reportage signé Marcel Kizabiamongo.
Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues ce lundi matin dans plusieurs villages de Loloa, centre Bandegué, Matolo, Mikanya, Menzimenzi, Samoko, Kiterin et Zakia. Des sources sécuritaires indiquent que les forces conjointes FARDC et UPDF ont pour objectif de déloger les ADF de leur bastion de Madinadé. Tout en saluant ces opérations conjointes de leaders communautaires et membres de la société civile de Mambasa, appelle la population à la vigilance, mais aussi à renforcer sa collaboration avec les forces de sécurité en dénonçant toute infiltration de l'ennemi. Il demande également aux forces conjointes de renforcer leur présence dans les agglomérations sur la route nationale numéro 4. Cela en vue d'éviter de prendre la population pour la cible pendant leur fuite suite à la pression militaire dans la région. Depuis hier lundi, l'armée régulière et son allié ougandaise, le UPDF, régularisent les trafics sur la route nationale numéro 4 entre Komanda et Mambasa pour garantir la sécurité des des personnes et de leurs biens. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Kasaï oriental vers une paix durable à Katanda. Trois chefs de groupement du territoire de Katanda ont scellé la paix après plus de 40 ans de tensions liées à des conflits fonciers entre les communautés Benakapuya, Benanchimba et Benamwimbia. Un forum sur la paix est désormais annoncé dans ces territoires. Cette avancée fait suite à la remise jeudi dernier à Kinshasa du rapport final du processus de réconciliation au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Le document a été présenté par le responsable de l'Alliance des autorités traditionnelles et coutumières pour le Grand Kasaï. Sa Majesté Lemba Lemba Kela Katoa, président de cette alliance, affirme que Katanda est désormais une oasis de paix. Il s'exprime au téléphone d'Esther Ndalafina.
Le VPM nous a reçus, c'était pour que nous puissions préparer notre audience avec les chefs de l'État. Vous savez vous-même que hier, Katanda était une zone rouge. Aujourd'hui, c'est un oasis de paix. Nous avons laissé la paix. Donc, Katanda, guerre comme telle, il faut tourner ça à l'histoire. Nous allons encore rentrer pour accompagner cette paix-là. Et ça sera pour bientôt. On va organiser un forum de paix. Toutes les autorités seront présentes à Katanda pour cimenter cette paix-là. Ce qui divisait les enfants de Katanda, c'était le problème des limites des terres. Alors maintenant, nous allons demander au chef de l'État de nous faciliter la tâche en nous confiant les experts de l'Institut géographique qui peuvent descendre ensemble avec nous et montrer chacun ses limites. C'est le seul point qui reste. En plus, on ne refuse à personne d'aller cultiver chez Kapuya ou chez Chimba ou chez Mwembia.
Parlons santé, c'est une avancée majeure pour les habitants de l'est de Kinshasa. À Kinkole, dans la zone de santé de Lancélé, l'hôpital général s'apprête à franchir une étape importante avec l'installation imminente d'un laboratoire biomédical moderne. Les travaux sont déjà achevés à 90% et l'impatience grandit chez les près de 700 000 habitants desservis par cette structure. Fini les longues attentes ou les transferts d'échantillons vers d'autres centres. Ce projet soutenu par l'Agence française de développement suscite un réel espoir au sein de la population locale. René Lintimbonera s'est rendu sur place pour nous en parler. Voici son reportage.
Construit sur une superficie de 400 mètres carrés, ce nouveau laboratoire biomédical vise à répondre aux difficultés que rencontrent les laborantins dans l'analyse quotidienne des échantillons des dizaines de patients, explique Joseph Kinyongu.
La moyenne par jour, nous avons 50 patients. Alors si nous avons des automates, nous espérons que Expertise France va nous équiper en automates. On pourra réaliser beaucoup d'analyses en étant record.
Venu se faire examiner dans l'ancien laboratoire encore en service, Nénette espère que ce nouvel outil contribuera à améliorer la qualité des prestations médicales.
On ne va plus aller dehors ou ailleurs pour se faire examiner. On est là, tous les examens demandés, tous les examens qu'on va demander par le médecin, on le fera ici.
Au-delà de son rôle dans la lutte contre les épidémies, le laboratoire sera équipé d'un incinérateur de dernière génération pour une gestion optimale des déchets hospitaliers. C'est ce que précise Simon Tawite, représentant du chef du projet La Bokine.
Les structures voisines ici vont pouvoir amener leurs déchets ici pour que ça soit incinéré. Et ça, c'est un coût encore supplémentaire que l'hôpital va récupérer. Donc c'est un modèle économique qui sera établi.
Notons que 5 laboratoires similaires sont en cours de construction au bénéfice des 6 ans de santé de la ville province de Kinshasa pour un montant global de 12 millions d'euros.
Environnement à Matadi, dans la province du Congo central. Une nouvelle initiative verte a vu le jour ce lundi. Il s'agit du lancement d'une campagne de sensibilisation sur la gestion des déchets plastiques. Cette activité est portée par le conseiller communal d'Inzanza en partenariat avec l'entreprise Chinelville Mystère, spécialisée dans la transformation du plastique en pavé écologique. Selon Chito Bugwalanga Mazo, conseiller à la commune d'Inzanza, cette campagne vise à réduire la pollution plastique en valorisant les déchets à travers le recyclage tout en contribuant à la protection de l'environnement. Le point avec Nana Plurish Mambou.
Cette campagne est lancée au rond-point Belvédère dans la commune d'Inzanza à Matadi. À cette occasion, les conseillers de la municipalité de Nzanza et l'équipe de l'entreprise Chinelle Vie Mystère, œuvrant dans les recyclages des plastiques, ont ramassé, rien qu'au rond-point Belvédère, une grande quantité d'emballages plastiques. Cette campagne de sensibilisation sur la gestion des déchets plastiques a besoin d'un appui financier. Chito Bungwala Ngamazo, conseiller communal de Nzanza, en appelle à l'accompagnement des autorités.
Avec l'établissement Chinelle Vie Mystère qui est spécialisé, demander aux autorités de les appuyer. Parce que tout ce qu'elle fait comme travail de récupérer, de recycler, ça se fait d'une manière un peu artisanale. Or, si les autorités donnent des moyens, ils vont acheter des machines, peuvent avoir une capacité de production industrielle, ça va faciliter la production des pavés écologiques et ça va résoudre tout ce qui est comme problème dans notre environnement.
Rappelons qu'à cause, entre autres, des déchets plastiques ayant bouché les caniveaux, de fortes inondations ont causé des dégâts matériels et humains énormes dans la commune de Nzanza en 2024. Matadi, Nana Plirich Mambu, Radio Okapi.
À Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, un séminaire de haut niveau s'est ouvert à l'intention de l'Assemblée provinciale et du gouvernement provincial. Pendant 3 jours, les participants vont réfléchir autour du thème appui institutionnel pour une collaboration efficace entre les organes législatifs et exécutifs en vue d'une gestion publique axée sur les résultats pour atteindre des objectifs de développement durable. Cette initiative est portée par le secrétariat national de renforcement des capacités, SENAREC. Paulin Katamba, coordonnateur national adjoint de SENAREC, revient sur les enjeux de ces assises au micro de Florence Kizalunga.
Vous savez, les défis sont énormes. Il y a les relations d'abord des collaborations entre les deux institutions qui posent des problèmes. Il y a eu beaucoup de mouvements où les gouverneurs ont été déchus par les assemblées provinciales et cela est dû au fait qu'il n'y a pas tellement une franche collaboration entre les deux. Alors l'objectif de ces séminaires, c'est pouvoir un peu retracer les engagements des uns et des autres par rapport aux textes qui nous régissent. Il faudrait expliquer à l'exécutif et aux législateurs quelles sont les responsabilités des uns et des autres, des manières qu'ils puissent travailler en collaboration pour un objectif commun qui est le développement de notre pays. Il faudrait aussi comprendre que pour pouvoir arriver aux objectifs de développement durable, il faut vraiment une franche collaboration entre les deux entités qui sont très importantes dans le développement de notre pays. À l'issue de ces assises, justement, nous allons renforcer les capacités de tous les membres des deux institutions et ils devront aussi signer des actes d'engagement en ce qui concerne l'éthique et chacun devra avoir un brevet qui va démontrer qu'ils ont assisté à un certain nombre de thématiques qui sont justement très importantes pour l'exercice de leurs fonctions.
Paulin Katamba, coordonnateur national adjoint du SENAREC. Restons dans la province du Maniema, où le Forum provincial sur la démocratie et la gouvernance vient de formuler une proposition audacieuse, intégrer les peuples autochtones, notamment les pygmées, dans les assemblées provinciales par cooptation, à l'instar de chefs coutumiers. Une demande motivée par leur statut des minorités, souvent marginalisées dans les sphères de décision. Le révérend pasteur Jacques Samine Mungwetu, coordonnateur de l'ONG Mangembo, organisatrice de ce forum, revient sur cette recommandation. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Nous avons réalisé que lors des élections de 2023, il y avait quand même de l'avancée, mais après tout, on a réalisé qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient dérangé ces processus. Entre autres, on a assisté lors de l'enrôlement qu'il y a des cartes d'électeurs jusqu'à aujourd'hui qui s'effacent sans cesse. Il y avait des suppressions des noms des électeurs dans la base de données. Partant de cela, les gouvernements doit achever le processus d'élection. Nous avons aussi proposé quelques considérations aussi. Par exemple, pour les circonscriptions qui ont plus de 3 places, que les 2 places, les 2 hommes peuvent compétir. Et 1 place doit être réservée aux femmes et aux hommes en situation de handicap. Il y a aussi les peuples autochtones, les pygmées, qui sont minoritaires. Nous avons proposé aussi que leur situation soit prise en compte, par exemple en cherchant aussi à les coopter comme on le fait aussi pour les chefs coutumiers.
Actualité internationale.
À Gaza, mourir de faim n'est plus une image forte, mais une réalité brutale. Ce week-end encore, plusieurs Palestiniens ont perdu la vie en tentant d'accéder à de la nourriture alors que les raids israéliens se poursuivent dans l'enclave. Les scènes de détresse se répètent, blessés sanglantés dans les rues, hôpitaux débordés, enfants malnutris dont le bras de mer à bout de force. Lundi, Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, a une nouvelle fois condamné sans équivoque le meurtre de tous les civils lors d'un point de presse à New York. Dans les viseurs de l'organisation, la Fondation humanitaire pour Gaza, une initiative soutenue par Israël et les États-Unis qui distribuent de l'aide alimentaire depuis fin mai en dehors du cadre onusien. Selon l'ONU, plus de 500 personnes ont été tuées ces dernières semaines alors qu'elles tentaient de se nourrir près des sites de distribution non sécurisés de la Fondation humanitaire pour Gaza. Le modèle de distribution qualifié d'intrinsèquement dangereux par le secrétaire général Antonio Guterres est accusé d'avoir militarisé l'aide humanitaire et d'avoir écarté les agences spécialisées.
L'invité.
Aujourd'hui, nous recevons le docteur Chizimba Chitompa Marie-Albert, chef de division du Programme national de lutte contre les infections respiratoires aiguës et membre actif du groupe de travail sur l'oxygène médical dans la province du Maniema. Dans une interview exclusive accordée à Radio Okapi, il revient sur une avancée capitale pour le système de santé local, la mise en service d'une usine de production d'oxygène médical récemment dotée par le gouvernement congolais. Il répond aux questions de Florence Kizalunga. Suivez.
Docteur Chizimba Chitompa, Marie-Albert, bonjour.
Bonjour, maman Florence.
Une usine de production de l'oxygène médical implantée dans la province du Maniema, ça vient résoudre quel problème?
Merci beaucoup, madame. La question que vous posez demande justement que nous puissions recourir aux origines. Le pays a été frappé par une pandémie COVID-19. Cette pandémie à COVID-19 a occasionné plusieurs décès, mais principalement, ces décès étaient dus à la quasi-absence de l'oxygène médical presque sur l'ensemble du pays. La province du Maniema n'a pas été épargnée. Voilà pourquoi le gouvernement central, grâce au leadership du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé de doter la province du Maniema d'une usine de production de l'oxygène médical en vue de pouvoir prévenir et également guérir tout cas de détresse respiratoire, tout cas d'hypoxémie et toute éventualité liée au manque d'oxygène dans le corps d'un patient. Et ce, c'est dans la vision de la couverture santé universelle du chef de l'État où la résilience est prônée.
Alors, quelle est la capacité de production de cette usine?
Cette usine a d'abord des bouteilles d'oxygène ou cylindres d'oxygène à B50, donc capacité de 50 litres, mais c'est rempli à la pression de 150. 50 bars, ce qui veut dire que la bouteille en tant que unité, le contenant va prendre à peu près 7500 litres, mais l'usine en soi produit par 24 heures 52 cylindres d'oxygène.
Qu'en est-il de prix? Parce que nous savons que l'oxygène médical, ça se vend. Est-ce que le prix sera abordable même au plus de minuit?
Si, effectivement. J'ai bien évoqué la couverture santé universelle qui voudrait à ce que les soins de santé soient rapprochés de la population et que ces soins soient accessibles, ces soins soient également de qualité. L'accessibilité tant financière que géographique est prônée dans la couverture santé universelle. Le coût sera abordable par rapport au pouvoir d'achat de la population. Je vous donnerai un exemple. À Kinshasa, il y a eu des hôpitaux qui auparavant vendaient un cylindre d'oxygène B50 à 100 dollars et au jour d'aujourd'hui, ils sont à 10 dollars. Il y en a même qui sont à 15 000 francs actuellement grâce à la création du groupe de travail sur l'oxygène médical par le secrétaire général de la santé et le groupe de travail sur l'oxygène, son président a planifié que chaque province obtienne au moins une usine de production d'oxygène médical, ce qui est en train d'être fait puisque on est jusqu'à ce jour à 23 provinces qui ont déjà chacune au moins une usine de production d'oxygène. Cela fait que puisque il y a la présence de l'oxygène, le coût au aussi diminuer. Mais j'aimerais toujours rappeler une chose. L'oxygène est un médicament essentiel. Il est vital. Tout homme a besoin de l'oxygène. Voilà pourquoi, comme produit vital, il mérite même une subvention. Si même vous me parlez du coût, le coût là c'est juste pour arriver à la maintenance curative et préventive de l'unité de production de cet oxygène médical.
Mais l'usine est installée au chef-lieu de la province. Ça sera comment les modes d'approvisionnement pour les hôpitaux qui se trouvent par exemple à l'intérieur de la province?
Avec la division provinciale de la santé, avec l'ensemble des zones de santé, il faudra qu'un réseautage soit fait. Placer les institutions qui administrent l'oxygène médical en réseau en fonction de leur distance et leurs éloignements. Faire parvenir l'oxygène jusqu'aux confins de la province du Maniema demande justement qu'une équipe ou une société, une entreprise, une coopérative se crée pour le transport de l'oxygène médical vers ces structures. Et cela doit être coordonné par le groupe de travail sur l'oxygène médical en consortium avec la province. Je dois dire que nous avons beaucoup plus de motos ici et que ça soit strictement interdit de faire porter un cylindre d'oxygène sur une moto. En effet, l'oxygène est flammable. Si une bouteille tombe, éclate et crée un incendie, c'est dangereux. L'oxygène sauve, mais il faut bien le gérer avec beaucoup de précautions.
Docteur Chizimba Chitompa, Marie-Albert, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
C'était le docteur Marie-Albert Chitompa, chef de division du programme national de lutte contre les infections respiratoires aiguës et membre du groupe de travail sur l'oxygène médical dans la province du Maniema. Il s'exprimait au micro de Florence Kizalunga à propos de la mise en place d'une usine de production d'oxygène médical, une avancée majeure pour le système de santé dans la région. Cela fait de ce journal. Il vous a été présenté par Gisèle Cage, mise en onde par Billy Landry Beto sous la coordination de Polly Mousalia. Merci pour votre fidélité et votre attention. Restez connectés à nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité en temps réel. À bientôt sur la même fréquence.